Dans cette release de CPU, un bleu d'architecture matérielle, une carte mère presque finie, des repentirs en fil à frapper et beaucoup de poussière quand même. L'équipe aujourd'hui, Eugène Lowe et Daskritch. Notre invité est Fabrice Frances, restaurateur de Ça se fait plus prototype. Et j'espère que tout le monde a mis son buzzer sur off. Non ? Alors soyez sympa, débranchez-le avant de le ressouder. Une petite heure, c'est parti. Bonjour Eugène.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va.
Et on est à l'atelier TA pour enregistrer et je crois qu'on va passer dans notre période sans. Oui, ça sent un petit peu quelques stalagmites et stalactites sur les équipements. Bonjour Fabrice Frances, merci d'être venu.
Bonjour, merci.
Si vous avez froid, on a du bois, je pense qu'on peut tenter de brûler quelque chose, mais je pense
que
ça pourrait râler quand même. Bonjour à toi public en folie. Non, ils n'ont pas osé, il fait trop froid. Je crois qu'il y a quelque chose en ville, c'est peut-être pour ça. Et bonjour à toi enfant du futur immédiat. Toi qui aimes chiner dans les vides-greniers à la recherche d'un prototype steampunk de iPod à disque dur 78 tours. Qui n'a pas rêvé de trouver un artefact tout droit tombé d'une réalité alternative, une chimère non finie qui promettait un autre avenir que celui qui est notre quotidien ? Qui n'a pas eu envie de tomber sur une planche complète d'un album de Tintin totalement inédit ? De Rush d'un James Bond abandonné avec Sean Connery au top de sa forme ? Ou de l'intégralité des enregistrements de Nicolas Sarkozy par Patrick Buisson. Ça, c'est un beau travail d'historien. Derrière les engins électroniques qui nous entourent, il y a souvent une entreprise, au sens noble du terme. Une aventure collective. Et l'existence même de nos gizmos est la conséquence d'une histoire, celle de son développement. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Pour financer de la R&D, recherche et développement, surtout dans le matériel, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et des fois, elle doit abandonner à grand regret un projet qui tenait particulièrement à cœur de tout le monde parce que le marché ne sera pas là, parce que la concurrence a fait mille fois mieux, parce que l'économie ne permet pas d'emprunter auprès des banquiers ou parce qu'elle fait brutalement faillite. Et donc cette vision se retrouve remisée dans des cartons, sédimentant sous les factures et livres de comptes, dans les strates géologiques de notre ère électronique. Dans l'informatique familiale, il y a eu des milliers de prototypes abandonnés. L'Amiga au chipset AAA, un Apple IIc combiné à un téléphone, et j'en passe. Certains n'étaient qu'à l'état de schéma technique, d'autres sont allés jusqu'au Photoshop pour une plaquette promotionnelle, parfois même des cartons des machines fonctionnelles qui ne sont jamais sortis de l'entrepôt. D'autres sont des légendes urbaines, comme l'Atari Falcon PowerPC ou le laptop Cray. Il a été impossible de trouver le moindre élément tangible sur ces monstres fantasmés. Enfant du futur immédiat, il arrive qu'un de ces prototypes qu'on croyait définitivement perdus ou fantasmés ressorte de leur carton, puis patiemment restauré par des passionnés et documenté. Leur découverte expose parfois des informations très intéressantes sur les entreprises et les personnes qui les ont construites. Par exemple, l'exhumation du premier prototype de la PlayStation de Sony, en deux mots, une machine qui était compatible avec la Super Nintendo et avec le même port cartouche d'ailleurs que la Super Nintendo, plus un lecteur CD-ROM Sony. Une étrange chimère qui en dit beaucoup sur les relations très aléatoires de Nintendo avec ses partenaires. La petite histoire veut que Nintendo préparait de longue date un appareil hybride avec Sony et a finalement décidé, deux jours avant l'annonce du produit au CES 1991 de Chicago, de plaquer son concitoyen japonais, annonçant publiquement un partenariat avec le Hollandais Philips pour finalement ne même pas utiliser le lecteur CD dans la console de la génération suivante, la Nintendo 64. Un revirement qui a mené à deux points importants. 1. La création des pires jeux de la franchise Zelda pour la CDI, le lecteur CD interactif de Philips. Oui, oui, ils sont là. Ils étaient, oui, particulièrement mauvais, comme quoi il y a pire. 2. Le lancement de Sony dans le monde du jeu vidéo, alors qu'il ne voulait pas y aller seul avec la PlayStation, première du nom, écrite cette fois-ci en un seul mot. Cette histoire était connue, mais incomplètement. De nouveaux détails sur cette trahison en 91 sont ressortis avec un carton contenant ce prototype de SNES à lecteur CD-ROM. Une histoire fascinante, passionnante, racontée par Kotaku. On mettra le lien sur le site cpu.pm et enfin du futur immédiat, prends vraiment le temps de le lire, c'est assez surprenant et ça en dit beaucoup au final. Enfin du futur immédiat, à fouiller les poubelles de l'histoire informatique, on peut exhumer des objets incongrus qui ont des histoires passionnantes. De là, on peut faire de la science-fiction spéculative. Imagine si Jules Verne avait vu un laser, quel roman aurait-il écrit ? Si H.P. Lovecraft avait eu un compte Facebook, quel roman d'horreur aurait-il imaginé ? Bon, c'est vrai que Lovecraft était un putain de raciste absolument du niveau de Facebook. Donc c'est... Et si Conan Doyle avait eu un smartphone, aurait-il imaginé le même Sherlock que Stephen Moffat ? Et si ? Et si ? Et si ? So we argue about the stupid things. Decide to take a week off from the binge. But just become more sick and more deranged. Who gets romantic anymore? And did anything really change? Do we have to be so tired? Can you think of something else to say? Something inspired? Oh well, that's just the way things go round here. Now we all love a good secret, but do you want to know the real reasons why we can't look each other in the eye? Oh no. Now we will cry in the same films, but we cry for different reasons. The ending was good, that is understood. The ending is near. Now what do you hear? The slow build, the sound the machines make, the sound of a heartbreak, the sound of one person alone at the end of the night. The slow sound that the trains make, lonely people home too late. The hum of the television, talking to no one. So we scroll through the night again, thinking about what we said to our friends. It's nothing really, don't you fuss. Ain't nothing wrong with the two of us. And the problems came from here and there and everywhere. And the government says that we should care much more about each other. We have a contract with our brothers. Now we all love secret, but do you want to know the real reasons why we can't look each other in the eye? Oh no. Now we will cry in the same films, but we cry for different reasons. The ending was good, that is understood. The ending is near. Now what do you hear? The slow build, the sound the machines make, the sound of a heartbreak, the sound of one person alone at the end of the night. The slow build, the sound that the trains make, lonely people home too late. The The Slow Build. Extrait de l'album The Bright Lights and What I Should Have Learned, sorti en 2006. Et vous écoutez Radio FMR. Retrouver une machine qui n'a pas existé à plus de 10 exemplaires, car elle n'est restée qu'à l'état de prototype légendaire, lui donner corps, lui donner vie, et même programmer dessus. L'histoire est absolument exceptionnelle, et il nous fallait quelqu'un qui soit un passionné sur une certaine gamme de machines, qui la connaisse vraiment par cœur, non seulement dans son histoire vidéo ludique, mais surtout dans son électronique, pour tomber sur cette histoire absolument extraordinaire et dingue auquel maintenant il fait partie. Nous recevons Fabrice Frances, enseignant-chercheur à l'ISAE Supaéro, restaurateur de Ça se fait plus prototype, développeur d'émulateur Auric, spécialiste en performance des FDX, les réseaux embarqués d'avionique spécialisés temps réel, et amateur de coucou qui crache du pixel qui tâche. CPU carré petit utile. Fabrice, vous aviez l'amour des Auric à l'époque où c'est un Ça se fait plus qui vous a touché bien après les années 80.
Non, c'est bien un ordinateur sur lequel je fais pas tout à fait mes premières armes, mais vraiment un des premiers sur lequel j'ai beaucoup programmé et je suis resté fondamentalement très attaché à cette machine. Oui.
Ouais. C'est quel a été par exemple l'un des souvenirs qui vous a marqué? Moment où vous vous êtes dit oui, il y a quelque chose qui se passe avec cette machine.
Ah ben, dès qu'on commence à créer des programmes dessus, peut-être encore plus pour les garçons que pour les filles, ce sentiment de création qui nous est refusé par la nature, ici prend corps et puis c'est notre bébé, quoi. Voilà, on fait un programme, ça devient son bébé.
Plus les garçons que les filles, attention, ça peut poser des problèmes. Et je n'adhère pas totalement là-dessus, mais je reste quand même un garçon. On peut faire rapidement une histoire donc de la gamme Auric. C'est un ordinateur anglais, donc au départ il y a eu l'Auric 1, il y a eu d'autres bécanes.
Oui, alors avant en fait, donc la société s'appelait Tangerine. Donc c'est le mandarine, je crois, en anglais.
À mon avis, c'était une référence à Tangerine Dreams, peut-être.
C'est l'époque où toutes les compagnies d'informatique s'appelaient avec des noms de fruits. Hein,
On se demande pourquoi.
Et donc ils avaient déjà un ordinateur qui était le Microtan 65. Mm-hmm. Voilà. Et donc le concepteur de cette machine avait exploité des particularités du 6502 hein, de son horloge, pour pouvoir bâtir un graphique de manière assez simple dessus. Et il a ensuite développé, pareil, ce qu'on appelle une Uncommitted Logic Array, donc de la logique programmable, hein, pour l'Auric 1. Et ça a permis d'intégrer sur une machine assez bas coût, hein, des graphismes de bonne qualité. Et c'est pour ça que c'est une machine qui a particulièrement bien marché en France.
D'accord. C'est une machine anglaise qui a marché en France. Elle a marché aussi en Angleterre ou dans d'autres pays peut-être.
Elle a bien marché au début en Angleterre. Ouais. Hein, mais bon, il a fallu faire face quand même à une concurrence. C'était quand même l'époque du Spectrum, par exemple.
Hein. Ah, les ZX80.
Oui, mais surtout le Spectrum ensuite. Hein, pour les aspects graphisme, on ne jurait que par les capacités graphiques presque à l'époque. Hein. Et donc, elle a mieux marché finalement en France qu'en Angleterre, oui.
Et en fait, la boîte a été rachetée par des capitaux français.
Alors, dès que les difficultés se sont faites, ont eu jour donc en Angleterre, effectivement, comme ça avait bien marché en France, il y a des sociétés qui ont voulu reprendre la boîte Auric, oui. Ils étaient deux sur le coup, donc ASN Diffusion, hein, et c'est pas eux qui l'ont eu. Hein, et puis on a eu Eureka, bien sûr, qui a repris ça en France. Oui.
Après l'Oricain, il y a eu d'autres bécanes, je crois que...
Alors, oui, alors ça c'était avant que la boîte anglaise coule. Hein. Donc l'Oricain était une machine avec un clavier un petit peu comme les touches des calculettes HP. Hein. Mm.
Bon, ouais, c'est toute petite touche.
Des petites touches, voilà.
Il ne fallait pas être un gamin de plus de 12 ans quoi, pour arriver à taper dessus.
Ce n'est pas un clavier très professionnel. Et donc, dans la foulée, presque un an après, disons, ils ont sorti l'Atmos. C'était exactement en fait, la même carte mère, rien de différent, mais un clavier Tadpole. Donc un clavier mécanique de bien meilleure facture.
C'était la seule différence entre les deux.
Alors, ils ont changé la ROM et le clavier.
Donc c'est la seule chose. Donc ça veut dire que la Logitech pouvait fonctionner ou la ROM était très différente.
Il y avait une compatibilité presque, alors pas parfaite. Hein. Bien sûr, ils ont voulu corriger des bugs. Hein. Le BASIC a été un petit peu étendu, très peu. L'idée, c'était vraiment de corriger les bugs de l'Oricain, qui quand même étaient assez nombreux.
On peut en parler, la prescription. Oui. Et ensuite, il y a eu l'Oric Telestrat, qui était l'idée d'en faire un serveur télématique.
Alors, plus exactement, donc, la machine anglaise qui devait arriver, c'était l'Oric Stratos. Hein, donc, on voit Atmos, Stratos, hein, on est dans les atmosphères, là, stratosphère.
Et plus haut, le ciel est la limite, mais quand même. Il y a plus beaucoup de place pour les noms.
Voilà, mais donc, ils l'ont annoncé sur un salon, donc c'était en Allemagne. Et deux jours après, la boîte donc, a été mise en liquidation.
Ah mince.
Alors, c'est pour ça qu'il est né donc, côté français. C'est exactement, en fait, quand on regarde la carte mère, hein, il y a marqué Stratos dessus. Et le boîtier aussi avait été récupéré, il était déjà prévu. Et on a juste un petit sticker Telestrat marqué dessus, alors que c'est un Stratos, en fait.
D'accord. On m'en avait prêté un à une époque, j'ai pas pensé à décoller le truc. D'ailleurs, c'était un lecteur disquette 3 pouces, même système comme Strat, si je me souviens bien.
Oui. Oui, donc pas le 3 pouces et demi, du 3 pouces. Et
donc les disquettes étaient beaucoup plus chères, mais du coup la mécanique dans le lecteur était plus robuste.
Plus robuste, je sais pas, pas forcément. En tout cas moins courante et.
Oui, moins facile à trouver. Ouais. C'était un peu la croix à la bannière. Comment on tombe sur un tel prototype tel que l'Oric Phoenix?
Alors là, effectivement, on pensait que c'était une chimère parce que personne n'en avait jamais entendu parler. Mais donc j'ai eu la surprise un jour, c'était en été 2006. On est venu me chercher en fait. On m'a donc envoyé un petit mail pour me dire Fabrice, on a fait une découverte fantastique en récupérant le vieux stock de Steve Hobbs en Angleterre. 40 cartons de matériel Oric dans son atelier et dedans donc 5 cartes mères avec marqué Phoenix dessus.
La renaissance de l'oiseau, c'est hallucinant. Parce que vous-même, vous avez gardé cette passion sur cette bécane puisque vous avez fait en fait un émulateur à la fin des années 90.
Oui, en 94 je crois ou en 93 et puis quelque chose que j'ai maintenu quand même pendant pas mal d'années. Et qui tourne toujours aujourd'hui. Hein. Et par contre, donc, c'est une machine qui est complètement différente. Hein. Donc, c'est une machine qui est complètement à part dans la gamme Oric, puisque tous les autres Oric étaient basés sur un 6502. Et là, on est sur du Z80 avec un système d'exploitation CPM. Donc, vraiment, une tentative pour Oric de revenir sur un marché peut-être plus... professionnel, peut-être.
Monter un petit peu en gamme, quoi.
Monter en gamme, peut-être, un petit peu. Voilà, mais comme je disais, la boîte s'était arrêtée en 84.
Parce que CPM, il faut le dire, c'était un système d'exploitation, ce qui n'était absolument pas courant pour les ordinateurs familiaux à l'époque. On démarrait, on tombait direct sur un BASIC. Là, on avait un vrai système d'exploitation. D'ailleurs, le CPM a plus ou moins inspiré MS-DOS. C'est exactement ça, c'est-à-dire que enfin non, il n'y avait pas la gestion des répertoires, mais on pouvait lancer des programmes. Il y avait une Logitech qui était disponible pour plusieurs ordinateurs et qui marchait très bien d'une bécane à l'autre.
C'est ça, c'est ce qui faisait la force de ce système d'exploitation, c'est que des constructeurs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, bon, qui partageaient quand même un processeur de base qui est le 8080 ou un processeur avec une compatibilité ascendante tel que le Z80, ben, pouvait faire tourner assez facilement toute une Logitech de programme. Oui.
Donc, vous tombez sur ce prototype. D'habitude, on fait quoi pour retrouver des origines? Vous passiez tous vos week-ends dans les communes qui ont eu certaines entreprises sur leurs locaux ou des alertes sur le bon coin, Ugly les bons tuyaux, votre foule de rabatteurs, je sais pas.
Ben non, en fait, moi je suis pas du tout collectionneur. Je suis un petit peu devenu collectionneur auric malgré moi. Pratiquement tous les auric que j'ai, on me les a donnés. Et à chaque fois, c'est les gens qui viennent me voir et qui m'ont fait des dons. Donc j'avais cet auric 1, mais ensuite l'auric Atmos avec son lecteur de disquette, on me l'a donné. Le Telestrat, on me l'a donné. Une carte Mastratos aussi. Voilà, à chaque fois, on est venu me chercher. Et...
Ah, c'est vous qui faites l'émulateur, donc on vous donne les machines que vous émulez. C'est amusant. Et du coup, vous faites comment? Vous les stockez dans un coin?
Bon, j'essaye de pas trop en garder, mais alors. Donc, comme je bricole pas mal, souvent je fais des transformations, je fais des choses avec, oui.
D'accord, des transformations. On va parler justement comment en fait le Phoenix, dans quel état vous l'avez et tout ça. Après avoir fouillé dans ce carton et retombé sur un vieux Dirty Vegas.
Don't you let me down?
Dirty Vegas, Lost, Not Found. Vous écoutez Radio FMR, c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Fabrice Frances, qui est là en tant que restaurateur de Ça se fait plus, oui, mais des Ça se fait plus prototype. Quelque chose absolument improbable. Donc, on parlait de cette machine légendaire, et bien trouvée hein, quand même pour son nom, le Phoenix. Quelles étaient les caractéristiques lors de sa découverte ?
Ah ben, les caractéristiques, c'est celles, en gros, d'une machine CPM classique. Un petit peu quand même dans les dernières années. Et donc, le processeur, c'est un processeur Hitachi, un HD 6480, qui est une espèce de Z80 intégré dans un microcontrôleur. Hein, mm-hmm. Donc, il y a des périphériques qui sont intégrées. Ça permet encore plus d'intégrer en fait, des choses sur la machine. Et puis, par contre, il y a une spécificité, c'est le chip graphique, donc, qui est celui du Minitel. Donc,
Ah ouais. Ah oui. Ils ont bah oui, quitte à être en France, on pouvait le récupérer facilement. Je croyais que c'était d'ailleurs des Américains qui fournissaient cette puce.
C'était une puce qui était fabriquée par Thomson F6, donc le F9345. Donc c'est vraiment une puce française, hein, quand même, à la base. C'est assez marrant d'ailleurs de voir le datasheet, parce que les noms des registres, tout ça, derrière l'anglais donc, du datasheet, on voit que ce sont donc des acronymes trouvés par des Français.
Ah oui, c'était pas des Anglais pratiquants. Donc c'est, si je relis en fait les notes que vous avez mis, 160 par 200 par 8 couleurs. Et donc les puces Minitel, ça faisait 40 colonnes.
160 par 120, ouais. Ou 125, hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve par exemple sur les Alice 32 ou les Alice 90.
Hein. C'était vraiment faible en fait, point de vue résolution.
Alors, en fait, c'est
pour l'époque.
Oui, c'est un chip qu'on appelle un chip semi-graphique. En fait, hein. Bon, et on le voit sur les Minitel, hein, les graphiques mosaïques, hein, typiquement, voilà, c'est ce qu'on peut faire avec ce genre de chip. Moi, je comprends qu'à l'époque, on commençait à avoir du mal à trouver des chips graphiques fabriqués par des fondeurs généraux comme Motorola. Motorola qui avait fait, par exemple, le 6845 qu'on trouvait dans un grand nombre de machines. Et il y a eu, à partir de cette époque, les années 85-86, l'explosion en fait avec le PC, avec les machines donc plus 16-32 bits comme l'Atari, l'Amiga, de chips qui sont venus des fabricants de machines eux-mêmes. Et donc pour un petit constructeur, c'était difficile de faire son propre chip graphique.
Il y avait donc c'est un Minitel un petit peu étendu puisque il pouvait aller en 80 colonnes. En fait, on est en quelle année exactement quand sur ce prototype ?
Donc là, on est en 85 quand Auric donc
Ah oui, donc c'est le moment où l'annonce de l'Atari ST de l'Amiga. Donc
ce qui est assez rigolo, c'est que le prototype, quand on a pu retrouver la ROM, donc, parce qu'on ne l'avait pas au début, la ROM est datée de 86. Donc là, effectivement, on est sur une machine 8 bits qui se trouve à une époque incongrue par rapport à la compétition. Oui. Et elle n'avait aucune chance, en fait, de faire son trou, quoi.
Ouais. Quel était l'état de finition, en fait, vous disiez qu'il n'y avait pas la ROM dessus, mais en fait, c'était juste une carte mère, il n'y avait pas de boîtier ni rien.
Ah oui, c'était juste une carte mère. En fait, c'est un lot de 5 cartes mères qui ont été retrouvées dans ce stock qu'avait Steve Hobbs de la société Opelco en Angleterre, et qui était comme ça... presque aux intempéries, hein, puisque la carte que j'ai récupérée, qu'on m'a envoyée, commençait à être corrodée par endroits.
Ah mince ! Ah ouais ! Donc il a fallu la restaurer, arrêter au moins l'oxydation.
Oui, alors une des causes, c'est aussi les batteries. Hein. Il y avait une petite batterie pour l'horloge temps réel. Donc dès que ça commence à couler, ces choses-là, c'est pas bon. Donc il y a quelques pistes qui étaient abîmées, mais heureusement, pas trop. Et donc, avec un petit strap derrière, en mettant une lime extérieure, en supprimant en fait toute la partie alimentation qui se trouvait là-dessus. Donc, j'ai pu faire démarrer la carte, oui.
D'accord. Donc, il y avait 5 cartes. Les 4 autres sont parties où ? Chez qui ?
Alors, les 4 autres, il y en a une qui est partie par la poste tout de suite vers la Norvège, vers un ami donc aussi qui fait des démos dans le monde de RIC, mais seulement apparemment elle n'est jamais arrivée, donc elle est perdue. Et puis il y en a deux autres qui sont partis vers le club Europe au RIC, et une qui était restée donc chez Jonathan, donc cet ami qui m'avait envoyé la carte. Oui.
Et du coup, donc sur les trois autres qui restent, elles aussi, ils ont pu les démarrer ou...
Non, ils les ont pas démarrées. Je crois que je suis le seul donc à avoir refait une ROM à partir du dump qu'on m'avait envoyé.
Donc on a retrouvé en fait la ROM qui était sur disquette.
Ça c'est deux ans après. On a retrouvé Peter Alford. Alors c'était pas facile parce que quelqu'un qui...
Alors on va aller un petit peu vite. Donc j'ai sauté une question. C'est quand on a la carte mère, si on l'allumait qu'il n'y avait pas la ROM, qu'est-ce qui se passait?
Sans la ROM, il n'y a rien qui se passe. Sans la ROM, il n'y a rien qui se passe. Hein, puisque le processeur, il faut qu'il trouve les premières instructions sur la ROM. Donc j'avais commencé à développer ma propre ROM en fait pour faire des tests. Et ça m'a permis de faire un petit peu de reverse engineering sur la carte aussi, donc pour essayer de programmer les différents composants.
Parce que là, pour le coup, vous n'aviez pas l'adressage, vous ne saviez pas dans quelle mémoire taper pour accéder à telle puce.
On n'a pas la carte mémoire. Alors ça, donc, on commence à trouver des indices en suivant les pistes sur la carte mère, les différents composants.
Oui, là, pour le coup, on suit vraiment les pistes physiques.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est au premier sens du terme,
oui. C'est une démarche qui est assez classique quand on veut émuler, par exemple, des machines d'arcade. Donc j'avais fait ça, par exemple, sur des machines... Gottlieb, et donc on regarde les petits composants tels que les démultiplexeurs qui permettent de gérer les adresses par exemple, et puis on retrace donc une carte mémoire de la machine comme ça. Oui,
d'accord. Les ROM, elles étaient sous quel format? Vous les avez reçues en disquette ou en sortie papier?
C'est par mail. Hein.
Peter Alford, donc c'était déjà au format qui était exploitable. Quoi.
Non. C'est qu'en fait, Peter Alford donc, était un des designers de cette machine. Donc on a retrouvé sa trace. Ça n'a pas été facile parce que une fois, il était en Nouvelle-Zélande. Après, il a travaillé en Grèce. Avant, donc, il était en Slovénie, là où donc, cette machine a été conçue. Donc, c'est quelqu'un qui a voyagé pas mal. Bon, il a eu aussi des problèmes familiaux. Donc, c'est sa femme qui avait les cartons où on a pu retrouver donc, la ROM. Donc, il a fait un dump de cette ROM en se disant ça ne marchera jamais parce que les EPROM avec les fenêtres à UV, au bout d'un certain temps, ça peut quand même s'effacer. Donc il a fait un dump de la ROM.
Donc on explique, la fenêtre UV, c'est pour donner une impulsion lumineuse pour vider la ROM, pouvoir réécrire. Quoi.
C'est ce qu'on appelle des EPROM, qui s'effacent avec des UV. Donc c'est pour l'effacement de ces EPROM. On faisait ça avec donc des ultraviolets. Et après, par contre, de manière électrique, on est capable d'écrire l'EPROM. Et malheureusement, donc, au soleil, par exemple, au bout d'un certain temps, l'EPROM peut s'effacer. Donc, heureusement, elle était conservée dans une cave, et donc à l'abri de la lumière. Et lorsqu'il a fait le dump, il n'y croyait pas trop. Il m'a envoyé donc le dump, et donc j'ai pu la programmer sur une nouvelle ROM, et ça a marché.
Vous allumez la carte mère, qu'est-ce qui se passe ?
Et donc là, quand on l'allume, on voit donc sur l'écran apparaître une espèce de prompt, un message d'invite qui nous dit appuyez sur une touche et mettez une disquette. Et insérer une disquette.
On n'y est pas encore.
Donc on n'y est pas encore parce qu'on n'a pas de clavier.
Ah oui, moi aussi, oui.
On n'a pas de clavier et puis on n'a pas de disquette non plus.
Le clavier, mais donc dans le montage que vous avez exposé lors de l'événement vieux micro de nos amis de Silicium, en fait, vous avez repris un vieil Auric pour le brancher dessus pour servir de clavier, mais le clavier, c'était pas une prise DIN, c'était standard quand même à l'époque. Même l'Apple 1 avait une prise DIN standard. Ça aurait été utilisable?
Non. Donc c'était pas quelque chose de standard. Donc là, le clavier, en faisant du reverse engineering de la carte, on pouvait découvrir qu'il attendait tout simplement une liaison série en niveau TTL, c'est-à-dire des niveaux 0,5 volts. Et donc il suffisait. Le premier essai que j'ai fait, c'était avec un petit Arduino. Donc j'ai pu connecter comme ça un premier clavier avec un Arduino. Et puis ensuite, du coup, je me suis dit, tiens, puisque c'est un Auric, on va me brancher un Auric dessus.
Quitte à avoir le stock qui vous est amené par les fans.
Ah, mais l'Auric n'a pas été abîmé, hein, donc c'est simplement logiciel. Mm-hmm. Voilà, donc c'est une routine simplement qui va lire le clavier sur l'Auric et transmettre les informations vers le Phoenix.
D'accord. Donc il y a quand même toute une procédure de démarrage qui est relativement compliquée. Comme ce n'est pas le même processeur que les anciens Auric, ça veut dire que l'ancienne Logitech ne passe pas.
Ah oui, complètement. Oui.
Mais il y a toute la Logitech CPM.
Ah oui.
Qui était quand même extrêmement fournie pour l'époque. Je crois même qu'il y avait, en 83, à l'époque, on considérait qu'il y avait plus de logiciels sur CPM que sur MS-DOS.
Ah ben oui, puisque c'était les débuts de MS-DOS, même si MS-DOS, évidemment, après a doublé CPM. Donc au début, les logiciels, effectivement, étaient sur CPM et on avait des logiciels assez professionnels, contrairement à la Logitech Auric, qui était plus une Logitech de jeu.
Donc là, il y avait vraiment une montée en gamme, effectivement, sur la clientèle et tout ça, quoi.
Oui, oui.
Des trucs de pro, quoi.
Des trucs de pro, des compilateurs, donc ça permet de programmer dans d'autres langages, c'est pas mal. Et puis, tout ce qui est traitement de texte, évidemment. Il y avait des logiciels phares sous CPM, comme WordStar.
L'un des premiers éditeurs de texte.
Voilà, traitement de texte, multiplan, choses comme ça.
L'un des premiers tableurs, c'est des noms qui ne disent absolument rien. sauf peut-être dans la tête de Gênes. Alors, je vous prierai de vous méfier de l'individu qui est à côté de vous. Et s'il vous propose à boire, ne buvez pas. Ne buvez absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a, pardon ?
Je disais, je ne mords pas, je vous rassure.
Oui, enfin, ça n'a pas été prouvé.
C'est vrai. Il y a eu deux spéciales Halloween il n'y a pas longtemps. Ouais. Je les ai ratées. Putain, et j'étais complètement dingue en fait de les rater. Et
ça t'a plu au moins, tu les as écoutées ?
Une partie, ouais. Ça m'a tellement chamboulé en fait dans mon esprit que j'en ai fait des cauchemars. Et là, ça fait une semaine que je fais le même cauchemar. Je me revois passer la nuit d'Halloween avec Alexandre Benalla. C'est un véritable cauchemar. Je vois les têtes en fait dans le public minimaliste. Là, je crois que niveau torture, mon subconscient est au top du top. Franchement, est-ce que vous trouvez qu'il est touchant, Benalla, quand il dit j'ai pas fait exprès, c'était pour défendre la République. Moi, ce que j'aime chez Benalla, c'est qu'on peut y mettre des armes. Il y a toujours de la place pour les coffres forts qui se cachent. Ouh, la 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 la, oh Benalla. Mais que dalle, oui, pour la compassion. C'est plutôt, moi, ce qui me gave chez Benalla, c'est qu'il nous fait vraiment des gros doigts. Là, j'ai arrêté de chanter parce que c'est pas trop mon truc.
Oui, oui, non, mais t'arriveras pas à les reprendre les meilleurs foudites.
Mais le mec, il a cru quoi ? Il a cru qu'on avait tous le cerveau d'Aurore Berger ? Ah bon, c'est vrai, si j'embrasse la grenouille sur la bouche, elle va se transformer en start-upper avec son iPhone 10 collé à l'oreille. Eh ben oui, t'as qu'à croire. Et après, t'appelles Pierre Rabhi pour qu'il vienne soigner l'herpès que t'as chopé sur les lèvres avec une compotée de pissenlit. Bon, vous l'aurez compris, je suis un peu énervé quand même. Et tous les soirs, je fais ce même putain de cauchemar que je vais vous raconter. Il est 19h, il fait nuit dehors et Alex, il est tout excité. Youpi Eugène, comme c'est Halloween, je vais enfin pouvoir me déguiser en méchant CRS qui fait peur sans être emmerdé par le juge. Et en plus, avec le déguisement, j'ai là une grosse matraque et un flashball. Ah, je suis super content, j'ai le zizi tout dur. J'ai mis bien, Benalla, j'ai vu un peu tous les témoignages qu'il a fait, etc. Déguisement enfilé. Bon, à présent, c'est dehors, c'est la rue. Direction une première maison pour aller chercher des bonbons en marchant main dans la main. Putain, t'imagines le cauchemar d'Ascrit, je donne la main à Benalla. J'ai les yeux qui saignent là, plus besoin de masse d'Halloween. J'ai l'impression.
Tant que tu y tiens la main, il ne sort pas le flingue.
C'est vrai. Mais c'est pas fini. J'ai l'impression d'être ridé, d'être ménopausé et de chercher un peu d'exotisme pendant que mon mec fait des selfies avec des footballeurs, des braqueurs et tout un tas d'autres gens qu'il ne connaît pas vraiment. Non, Alexandre, arrête là. Arrête d'appeler les flics toutes les 30 secondes. C'est normal qu'il y ait des jeunes avec des masques et des marteaux ou des battes de baseball sanguinolentes. Ce sont pas des casseurs. Ils ont 10 ans. C'est pour de faux. C'est Halloween. Range-moi ce SP2022. On va aller demander des bonbecs à la maison à gauche là avec une citrouille, tu vois. Ça va te calmer. Bon, pour info en aparté, un SP 2022, ce n'est pas le dernier Samsung ultra plat, waterproof avec écran auto-nettoyant. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille tout simplement de regarder sous compte. Nous frappâmes à la porte et là, vous vous dites, mais putain, que va-t-il bien inventer pour rebondir sur la thématique de l'émission d'aujourd'hui ? Et si mon rêve s'arrêtait là ? Si je me réveillasse au moment où la porte de la maison s'ouvrit ? Eh bien non. La porte s'ouvrit, c'était le fantôme de Maxwell Hermann Alexander Newman, qu'on appelle plus facilement Max et qui était l'inventeur du célèbre Manchester Mark I. Il nous a tout dit sur la manière dont il avait créé cette machine prototype, comment il avait travaillé, les matériaux qu'il avait utilisés, comment il les avait assemblés, la programmation qu'il avait faite, et même l'adresse d'un lieu dans lequel il avait caché un second exemplaire de cette machine prototype parfaitement conservée. Benalla, lui, avait soigneusement noté toutes les indications de Max Newman sur son téléphone. Nous n'avions pas eu de bonbons, mais nous allions pouvoir exhumer le Manchester Mark I de Max. Sauf que Benalla voulut m'envoyer toutes ses notes par texto avec son téléphone offert par l'Elysée. Vous savez, celui qui, depuis quelques jours, on sait que, malheureusement, tous les SMS de ce téléphone s'effacent tout seul. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. C'est con, hein, mais c'est ainsi. Voilà. Donc, hop, les notes, toutes les indications de Max Newman, disparues. Plus rien. Moralité de l'histoire. Si un jour, le gouvernement te dit « on va faire un système d'exploitation pour favoriser l'inclusion numérique et tous les citoyens seront égaux devant leur ordinateur », eh bien, ce jour-là, empresse-toi de télécharger la dernière version d'Ubuntu.
Oui, on ne sait jamais. Merci Eugène. Et ça tombe bien, je suis encore raccord sur la programmation musicale. Oubliez le temps par Astrolab.
Qui vient de s'installer.
écoutez Radio Éphémère. Et c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous avons comme invité Fabrice Frances, restaurateur de Ça se fait plus prototype. Enfin là, pour le coup, un petit peu à votre corps défendant, mais vous étiez bien content. Non, ne regardez pas trop les bécanes qui sont en hauteur. Un, ce sont des soleils, ce ne sont pas des ordinateurs. Et deux, tant qu'on n'y touche pas, ça ne tombe pas, puisque nous enregistrons à l'atelier Théa. Est-ce que vous avez... Oui, pardon.
Je disais dans ma tête, en fait, mais c'est dans ma tête. C'est, chaque fois que tu dis restaurateur, j'ai l'impression qu'on est dans une émission culinaire, en fait.
Là, c'est plutôt des antiquaires, tu sais, comme quand tu vas chercher des pièces pour ton IBM. Mais l'informatique, c'est un peu
comme, finalement, comme une recette de cuisine, quand même. Il faut choisir les bons composants, les assembler d'une certaine manière. Il y a tout un process à respecter.
Là, on est plus peut-être dans l'archéologie. Hein, ouais.
Ou alors les vieilles recettes de cuisine ancestrales.
Enfin, l'archéologie où les personnes qui ont conçu ces bécanes sont encore vivants. Pour certaines, pour la plupart. Est-ce que... Comment ils ont pris votre projet d'essayer de restaurer cette machine, la faire démarrer et ensuite de l'étendre ?
Ils ne sont pas au courant, ils sont tous morts.
Non, ils sont vivants, j'ai vérifié.
Ah ben, je pense qu'ils étaient tous très heureux, oui. Oui, bah, souvent, les gens sont surpris. Surpris, oui.
Quand vous avez restauré cette machine, vous avez dit qu'il y avait un début de corrosion. Il y a eu d'autres pannes qui sont arrivées entre-temps que vous aviez dû tenter de réparer ?
Oui, mais en fait, la machine, au bout de 5 à 10 minutes, l'écran commençait à bouger. Et puis, un petit peu après, donc il n'y avait plus du tout de synchronisation. En fait, il y avait un composant qui, sans doute, il y avait une erreur sur un composant. Juste un petit condensateur qui n'avait pas la bonne valeur. Et que la machine était instable.
Et que du coup, vous avez pu débugger, quoi, voilà. Physiquement.
Oui, en changeant le condensateur, en changeant la valeur du condensateur.
Il a fallu le trouver et tout le reste. Là, je suis impressionné. Encore plus. Quelles sont les limites, en fait, de la restauration quand on est face à un prototype ? Quelles sont les limites ? Les limites sont historiques, sont les possibilités qu'on pouvait faire à ces bécanes-là ?
La crainte, évidemment, c'est que la machine ne soit pas complètement aboutie. On n'a aucune idée de savoir, au départ, si la machine est une machine complètement fonctionnelle ou si elle est pleine de bugs encore et en plein développement. Et voilà, donc là c'est la belle surprise, oui.
Parce qu'une des démos que vous avez faites notamment, c'est que vous avez rajouté un dispositif de sortie son par le port parallèle. En fait, c'est un bête convertisseur numérique analogique. Donc vous envoyez du signal sur le port parallèle, c'était converti en son. Mais là pour le coup, on est plus dans la prospective rétro-futuriste quelque part.
Oui et non. Je pense que les cartes Covox Speech Things, hein, puisque c'est ce type de carte-là, c'est à peu près la date, hein, c'est à peu près les années. Oui.
Disney faisait des jeux sur PC où justement ça leur servait aussi de dispositif anti-piratage, ces cartes sont là.
Ah oui, je ne savais pas.
Oui, ça utilisait le port parallèle pour faire les sorties-sons, sinon c'était au buzzer, c'était dégueulasse. Chanter les Reines des Neiges en bip-bip par saut de fréquence, c'est pas rigolo, quoi. Est-ce que ça vous a titillé d'aller au-delà, donc vous avez construit un boîtier, mais de donner un boîtier avec un look, d'imaginer un design graphique, voire de lui concevoir un manuel?
Ah ben, c'est quelque chose qui va suivre, oui. Pour l'instant, j'ai un boîtier en bois. Qui est assez élégant, sobre, mais il faudrait faire des recherches pour savoir s'ils en étaient à ce niveau-là. Hein. Est-ce qu'ils avaient déjà un boîtier qui était prévu ? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la boîte donc, s'appelait Autotechna. Ils sont plus dans les voitures aujourd'hui que, que dans les ordinateurs.
Ça peut les intéresser, hein. Une carcasse d'ordi avec une belle peinture.
Donc on ne sait pas trop, oui, comment était prévue donc cette machine. Oui.
Est-ce que ça vaut le coup de l'émuler ? C'est intéressant d'essayer de porter une émulation pour cette machine-là. Ou est-ce que finalement c'est encore trop frais, il y a encore trop d'incertitudes dessus ?
Bah, comme c'est une machine qui, c'est une machine CPM, hein, donc y a déjà des émulateurs CPM et qui justement font abstraction des différences qu'il peut y avoir entre les différentes machines CPM. Et donc là, la partie graphique qui est vraiment très spécifique, si on veut l'émuler, ça a été fait par exemple sur des émulateurs de type VG5000 ou Alice 32, Alice 90, on en parlait. Si on veut l'émuler, donc c'est, ça sera possible, bien sûr, mais ça apportera pas grand-chose finalement par rapport à un émulateur d'autres machines CPM.
Et vous-même, donc, vous développez sur cette machine, vous utilisez différents langages. Il y a le Turbo Pascal 3, il y a du Modula aussi, donc que vous utilisez.
Oui, c'est le côté un peu archéologique cette fois-ci, logiciel.
Enfin, là, c'est la spéculative fiction sur le niveau logiciel, quoi, pour le coup.
Ah non, non, ça a vraiment existé. Ça a existé très peu de temps. Donc, c'était vendu. Donc, ce compilateur, enfin, c'est Borland qui avait revendu les droits à une petite boîte. Et donc, ce compilateur Modula 2, ça a existé.
Oui, ça tournait sur Amstrad CPC et plein de bécanes de l'époque, oui. Je les ai vus tourner. J'ai bricolé.
Et quand j'ai contacté un des développeurs de ce compilateur Modula 2, il était vraiment très content et étonné aussi de voir qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça encore aujourd'hui, oui.
D'ailleurs, le type en question... n'est pas un inconnu actuellement.
Ah oui, le type en question n'est pas un inconnu, hein, puisque c'est l'inventeur du langage Scala, langage informatique fonctionnel.
Ouais, donc sur une base de JVM et tout le reste. Est-ce que vous avez eu un projet logiciel un peu plus abouti, outre les démographiques et sons que... Ou finalement, c'est non, ça ne vous intéresse pas parce que ça n'a aucun intérêt.
Ah ben là, en ce moment, en fait, on parlait de rétrofuturisme un petit peu. Hein, c'est un peu ce que je fais, oui, puisque j'essaye de réactualiser un petit peu cette machine en essayant de lui faire faire des choses aujourd'hui qu'elle n'aurait pas fait à l'époque. Donc la première étape, bon, c'est de corriger un certain nombre de bugs qui existent dans la ROM parce que la ROM n'est pas aboutie. Donc on en trouve pas mal, et d'essayer de la rendre la plus fonctionnelle quoi, possible. Donc là, par exemple, bah, j'ai changé le codage donc, des caractères qui est utilisé, qui était simplement de l'ASCII, pour mettre du latin 1.
Et puis, pour avoir les lettres accentuées.
Pour avoir les lettres accentuées, entre autres. Et puis, je vais passer à l'UTF-8, des choses comme ça. Ouais.
Ah oui, l'Unicode, carrément. Ah bah, il faut de la place en mémoire.
On n'est pas obligé d'avoir tous les glyphes non plus. Hein.
Et puis, il faut manipuler l'interface graphique. Donc, et puis, il y avait de la RAM quand même. Pour l'époque, il y avait 256K quand même. Pour une machine 8 bits, c'était énorme quoi, pour ce type de bécane.
Oui, 256K. Sur la carte, en tout cas, qu'on m'a envoyé, il y a même donc la place pour en rajouter 256 de plus. Donc ça fait 512, c'est beaucoup. Mais dans le même temps, en fait, la version de CPM qui est dessus ne gère que 64K. Alors, heureusement, donc...
On peut tenter de faire du multitâche avec en soi pour les banques.
Voilà, ils utilisent le reste de la mémoire pour faire un RAM disque. Ce qui est pas mal, ça permet quand même d'accélérer bien les choses.
Ah oui, quand même, ouais. Et puis, je suppose que si maintenant on y met de la mémoire flash pour accéder à la machine, quand même, elle doit sentir un petit peu le caoutchouc qui fume, quoi.
Aujourd'hui, on peut rajouter effectivement des interfaces et puis mettre une compact flash, par exemple, pour servir de disque dur, des choses comme ça. Ouais.
Est-ce que vous avez évalué son coût de production s'il avait été produit à l'époque? Et est-ce que ça aurait été une machine viable commercialement, même si la concurrence était bien au-dessus techniquement?
Le coût de production, je ne l'ai pas évalué, mais je dirais qu'à l'époque, facilement, ça aurait valu 600 livres sterling.
Ouais, donc, ça faisait dans les 6000 francs, près.
Quoi. Ça aurait fait dans les 6000 francs. Bon, il y avait quand même deux lecteurs de disquettes.
Hein, ouais, ça fait 900 euros. Hein.
Et à mon avis, elle aurait eu donc, aucun succès.
Soyons honnêtes. On parlait justement de vos compétences professionnelles tout à l'heure en introduction, donc puisque vous travaillez sur les performances des AFDX, donc ces réseaux embarqués qu'on trouve dans les avions. Est-ce que c'est une expérience restaurer ce genre de ça se fait plus qui vous intéresse aussi, qui vous amène quelque chose professionnellement ou finalement pas du tout? Je suis en dehors du bureau, je me détends complètement.
Alors, pour ce cas précis, pour la recherche sur les réseaux embarqués, pas du tout. Par contre, ma femme me dit toujours à la maison, on ne sait jamais quand tu joues ou quand tu travailles. Alors c'est vrai que...
Il n'y a même pas de différence entre les bécanes, c'est...
C'est jamais déterminé si je joue ou si je m'amuse, en fait, pour moi, ou si je fais quelque chose pour le boulot. Et c'est vrai que très souvent, en fait, on a l'impression que je m'amuse, et puis, parce que je fais quelque chose pour moi. Et puis, un peu plus tard, je vais le réutiliser dans le boulot.
Donc, il y a quand même quelque chose, il y a un peu quelque chose que vous apprenez derrière, quoi.
Oui, alors bon, c'est particulier peut-être à mon métier aussi d'enseignant-chercheur. C'est des projets, par exemple, pour les étudiants. Et donc, on essaye de mettre un peu de fun dans les projets. Et donc, effectivement, quand c'est fun pour moi, ça peut être fun pour eux, c'est ce qu'on se dit.
Fabrice Frances, merci beaucoup d'être participé à ce CPU. On vous souhaite en tout cas de encore beaucoup vous amuser avec cette machine et vous la présenter de temps à autre. Donc, il y a peut-être un site, on mettra toutes les références justement sur notre site cpu.pm pour trouver ces informations-là.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était CPU, l'émission Carré Petit Utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe était composée de Daskrich, Chief Rewiring Officer, et Eugène Lowe, Chief Restoring Officer. Oui, je parle anglais comme un français. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU, de combustible numérique, de l'atelier TA et de Radio FMR. L'intégralité du programme, des extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanqui. Normalement, cette fois-ci, je finis à l'heure, tu vois. Eugène, tu remets ce Solex en haut. N'essaie pas de la restaurer. Je sais que tu veux l'overclocker, mais non. Tiens, j'ai vu des restes d'un CPC 64 là-bas. Allez, va le voir.